Chaque année, à la même époque, ce début d'octobre, j'ai à cœur de partager avec vous ce qui est le message de vision de l'année. Il y a 3 ans, le premier message que je vous apportais et qui est vraiment la vision dans laquelle nous travaillons pour notre assemblée était bâtir le camp de l'Éternel. Et nous avons ensuite, avançons année après année, nous avons progressé dans cette vision. Et l'année dernière, je vous parlais de cette importance de la formation, du perfectionnement des croyants de l'Assemblée. Réfléchissant à ce que serait la vision de cette année 2012 et le message que je souhaitais partager avec vous, je me suis placé devant le Seigneur et rapidement, un mot est venu. Mais quand un mot vient du Seigneur, il est tout puissant. Et ce mot, je l'ai reçu comme une parole prophétique, mais je l'ai reçu aussi comme un message impérieux de Dieu pour notre assemblée, pour mon ministère, pour ma vie, pour chacun d'entre nous. Et ce mot, c'est celui d'achèvement. Achevé. Et je vous propose, pour découvrir ce mot, de faire ensemble une lecture dans la seconde aux Corinthiens, chapitre 8, versets 6 à 12. 2 Corinthiens 8, versets 6 à 12. Paul écrit ceci: « Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Et la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Amen. Avez-vous déjà goûté à cette joie d'avoir achevé quelque chose, d'avoir réalisé un projet? Vous savez, ce genre de projet qui exige un investissement de tout notre être, du travail, de l'énergie, peut-être même nos moyens, nos ressources, que ce soit dans le domaine des études, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial et encore plus dans le domaine spirituel. Oui, il y a une grande joie lorsque une montagne a été aplanie, n'est-ce pas? Mais nous savons qu'il est facile de concevoir, il est facile d'imaginer. Ça devient plus difficile lorsqu'il s'agit de commencer à travailler. Et c'est encore plus difficile lorsqu'il est question d'achever et d'aller jusqu'au bout. Alors que nous dit la Bible concernant cette notion d'achever? Dieu est un Dieu qui achève. Ce qu'il commence, il le finit. Il est écrit dans Genèse 2:2, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et lorsque Dieu a porté un regard sur la création, il a dit « Tout t'es bon. » Lorsque Jésus a accompli son ministère, dans Jean 17,4, dans la prière qu'il adresse au Père, il lui dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à accomplir. » Et nous savons que les dernières paroles de Jésus sur la croix sont « Tout t'es accompli. » Nous-mêmes, si nous agissons, si nous œuvrons, c'est dans le but d'achever. C'est dans le but de réaliser le projet qui est sur notre cœur. Et nous croyons que c'est de cet esprit d'achèvement que nous devons être animés. Il est tout à fait biblique. Si Dieu nous envoie, c'est pour agir et c'est agir pour achever. Nous travaillons pour atteindre le but, pour réaliser la mission que Dieu nous confie. Dans ce passage, particulièrement de l'Épître aux Corinthiens, Paul veut communiquer cet état d'esprit à ses disciples de Corinthe. Il leur envoie son collaborateur, Tite, avec ce message. Vous devez achever ce que vous avez commencé un an plus tôt. De quoi est-il question ? De l'organisation d'une collecte en faveur des saints des chrétiens de Judée. Et il les pousse à continuer d'agir selon leur empressement, mais aussi d'achever d'agir, de réaliser ce projet qui avait commencé l'année dernière. Nous avons commencé, mes frères et sœurs, à agir parmi vous il y a 4 ans. Et nous vous avons partagé notre cœur et cette vision, bâtir le camp de l'Éternel. Cette vision qui a pour objet de faire de notre Église une Église capable d'atteindre cette ville de Paris, capable de parler à ceux qui nous entourent. Et la pensée d'achèvement que Dieu a déposée fortement sur mon cœur concerne cette vision bâtir le camp de l'Éternel. Et je le dis avec foi et avec conviction donc, nous sommes dans l'année de l'achèvement de cet objectif. Oh, bien sûr, il y aura toujours quelque chose à parachever. Nous n'aurons pas fini de perfectionner le travail que nous avons engagé. Mais je crois que l'essentiel sera là par la grâce de Dieu. Et ayant achevé ce premier projet de bâtir le camp de l'Éternel, Dieu nous conduira ensuite dans une nouvelle étape concernant la croissance de notre Église et son ministère. Mais je veux entendre ce matin l'apôtre Paul et son enseignement précieux. Et il nous dit que 4 facteurs sont requis pour quiconque veut achever d'agir. Il nous dit tout d'abord que pour achever d'agir, il faut un but. Il nous dit ensuite que pour achever d'agir, il faut un empressement. Pour achever d'agir, il faut une détermination. Et pour achever d'agir, il faut aussi une action. Voilà les 4 points que je veux voir avec vous ce matin. Un but, un empressement, une détermination, une action. Poursuivez-vous des buts ? J'imagine que dans votre vie, vous poursuivez des buts. Et dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés aussi à poursuivre des buts. Car pour achever, il faut un but. Il y a malheureusement beaucoup de chrétiens et même de dirigeants d'église qui font l'économie de se fixer des buts. Car évidemment, lorsque nous n'avons pas de but, nous n'avons pris aucun engagement. Et en quelque sorte, ne pas prendre de but, ne pas se fixer des buts, c'est se protéger. Oh, je ne dis pas que le fait de ne pas avoir de but ne permettra pas qu'il y ait quelques résultats, parce que des choses sont entreprises et des fruits sont là, c'est vrai. Mais si nous agissons sans but, jamais, jamais nous connaîtrons cette joie qu'ont connue les bâtisseurs du temple. Que ce soit sous Salomon ou sous Zorobabel, le texte nous parle de cette joie de ces bâtisseurs qui, après avoir bâti, ont achevé avec succès dans la joie du Seigneur. Agir sans but ne nous permettra pas d'être encouragés dans notre foi. Car celui qui a travaillé avec foi en poursuivant un but sera fortifié dans sa voie et dans sa foi lorsqu'il aura achevé. En même temps, le fait d'avoir atteint un but, d'avoir persévéré jusqu'au bout, nous ouvrira de nouvelles perspectives parce que notre foi sera poussée en avant. Si nous n'avons pas de but, nous ne connaîtrons jamais la joie de l'achèvement. Nous ne connaîtrons jamais cette joie que Dieu a éprouvée au 7e jour de la création. La Bible nous pousse donc à nous fixer des objectifs. Et elle nous pousse à nous motiver pour les réaliser. Et elle nous dit, vous devez établir un projet. Vous devez établir une cible, un but à atteindre. Et vous devez travailler dans le désir d'atteindre ce but. Vous devez donc avoir un pourquoi et vous devez avoir un comment. Et c'est à cela que nous avons voulu travailler nous aussi. Agir d'achever requiert un but, donc, mais achever d'agir requiert aussi un empressement. L'empressement dans le royaume de Dieu est une valeur très importante. De Jésus, il y dit que le zèle de la maison de Dieu le dévorait. Les hommes que Dieu a utilisés étaient tous des hommes empressés. Abraham a été empressé au jour où Dieu l'a appelé. Il a quitté son père, il a quitté Charan, et il est allé dans le pays de Canaan qu'il ne connaissait pas simplement parce que Dieu l'avait appelé. Néhémie a quitté un jour la cour du roi de Perse pour aller dans cette ville de Jérusalem qui était au comble de l'opprobre et du malheur, parce que dans son cœur, il y avait un empressement. Les apôtres ont tout quitté pour suivre Jésus et pour aller même jusqu'aux extrémités de la terre, parce que dans leur cœur, il y avait un empressement pour l'évangile du Seigneur. L'empressement pour Dieu, mes frères et sœurs, n'a rien à voir avec une simple émotion. Les publicitaires sont capables de produire des émotions à travers des films. Mais l'émotion qui vient de Dieu n'est pas simplement passagère ou fugace. Dieu veut créer un réel empressement dans nos vies qui va devenir une force dans nos vies. Celui qui est empressé pour Dieu va s'impliquer complètement. L'empressement pour Dieu nous pousse à un total engagement pour le Seigneur. Celui qui est empressé pour Dieu, tout d'abord, va s'impliquer personnellement. Si vraiment on a un empressement pour la maison du Seigneur, on ne pourra pas dire « Hé, toi, vas-y d'abord, et moi, je suis. » Mais celui qui est empressé pour Dieu passe à la tête et il va de l'avant. Il est comme un pionnier et il marche avec le désir d'engager les autres à sa suite. Celui qui est empressé pour Dieu va aussi s'impliquer directement. Il ne veut pas rester en marge, il veut aller au cœur de l'action. Je parlais de Néhémie lorsque son frère lui a parlé de la situation de Jérusalem. Il ne s'est pas contenté de regarder de loin. Il habitait dans un beau palais à Suse, à 1500 kilomètres de Jérusalem. Mais il n'a pas dit « Seigneur, bénis Jérusalem. Seigneur, envoie des ouvriers à Jérusalem. » Du confort dans lequel il était. Mais il a tout quitté pour être au cœur du projet, au milieu des ruines, parce que c'est là que son empressement le poussait à aller. Enfin, celui qui est empressé pour Dieu va s'impliquer totalement dans l'œuvre du Seigneur. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, ses ressources, ses moyens, il les donne tout entier au but que Dieu lui a assigné. Il ne peut pas faire autrement. L'empressement pour Dieu nous engage complètement et totalement. Mais l'empressement à œuvrer pour Dieu ne peut se penser dispenser d'une vision d'achèvement. Parce qu'on peut être empressé pour Dieu sans avoir réfléchi au but à atteindre. Et souvent, ça occasionne des catastrophes. Regardez Moïse, le jour où il a visité ses frères. Il ne savait pas ce qu'il allait faire. Et malheureusement, il a agi impulsivement. Il a tué l'officier égyptien. Il l'a enterré à la va-vite et quelles furent les conséquences? Il fut obligé de fuir dans le désert. Je pourrais prendre Néhémie dont je parlais. Lorsque son frère lui parle de la situation de Jérusalem, il ne se précipite pas. Mais le texte que nous dit que pendant 4 mois, il va se tenir devant Dieu. Il va chercher la direction du Seigneur. Il va chercher le plan de Dieu. Il va chercher des moyens et un but auprès du Seigneur. Il va construire une vision d'achèvement. Oui, l'empressement est important. L'empressement avec une volonté d'achever. Mais l'empressement doit être aussi soutenu par une détermination et une action. Ce n'est pas suffisant d'être empressé. Parce que l'empressement par lui-même ne produit rien. Mais dans le passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Votre empressement doit devenir un accomplissement. » Il ne suffit pas de désirer, d'espérer, ou de dire « Oh, ça serait merveilleux. » Dieu nous attend au pied du mur. Et il attend que nous engageons volontairement dans son œuvre. Oui, la volonté fait le lien entre l'empressement et l'accomplissement. Et la volonté est nécessaire. Même dans le royaume de Dieu. Tout comme la foi sans les œuvres est morte, l'empressement sans la volonté d'agir est stérile et inutile. Et tout d'abord, l'apôtre Paul mentionne au verset 12 la bonne volonté. Après l'empressement vient la bonne volonté. Nous voyons souvent des gens qui ont des grandes volontés. Ils voient de grandes choses. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de ressources. Alors on peut avoir toutes les volontés du monde, mais si nous n'avons pas les ressources, nous ne pouvons rien faire. Et l'apôtre Paul nous dit au contraire, commencez donc par la bonne volonté. Qu'est-ce que la bonne volonté ? C'est celle qui sait ce qu'elle a à sa disposition et qui va déjà mettre en œuvre et donner au Seigneur ce dont elle dispose. Nous disposons de quelque chose et nous avons commencé à agir selon, un peu comme l'ange l'a dit à Gédéon, selon la force que nous avons. C'est vrai que lorsque nous regardons le défi qui est devant nous, dans cette ville de Paris, lorsque nous réfléchissons au but à atteindre, nous pourrions dire, Seigneur, mais que sont mes moyens ? Seigneur, que sommes-nous ? Que suis-je devant un tel enjeu ? Mais malgré tout, nous avons commencé d'agir. Nous n'avons pas attendu d'avoir tous les moyens. Mais nous avons dit, Seigneur, avec ce que nous avons, nous allons aller de l'avant. Peut-être certains pourraient dire, mais ne vous rappelez pas ce que le Seigneur, ne vous rappelez donc pas ce que le Seigneur a dit dans cette parabole de la tour. Réfléchissez, calculez, et si vous n'avez pas les moyens, ne vous lancez pas. Et bien sûr, ça serait comme une excuse, comme une justification pour dire nous n'avons pas les moyens, donc nous n'allons pas bâtir, parce que nous ne pourrions pas achever. Je vais vous dire, quiconque veut faire l'œuvre du Seigneur n'aura jamais les moyens d'achever. Parce que la vision de Dieu est toujours plus grande que la nôtre. Elle dépasse toujours nos ressources et nos moyens, sinon ça ne serait pas la vision de Dieu, ça serait un projet humain. Mais ce que le Seigneur attend, c'est que lorsqu'il y a un empressement qui vient de Dieu dans nos cœurs, nous commencions d'agir. Et c'est là qu'il a dit à Zorobabel, celui qui a construit le second temple, Zorobabel, tu aplaniras la montagne. Mais ce ne sera pas par ta force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Et ceux qui ont peut-être ri au jour des petits commencements se réjouiront lorsque tu achèveras. Ils verront que tu achèveras. Et Dieu a conduit Zorobabel. La bonne volonté est utile. Et nous voulons tous mettre cette bonne volonté. Seulement, véritablement, pour atteindre le but, pour achever d'agir, nous avons besoin de plus que la bonne volonté. Nous avons besoin d'une détermination. C'est pour ça qu'au verset 8, si vous voyez encore le texte, Paul nous parle de l'épreuve de notre sincérité, l'épreuve en quelque sorte de notre volonté. L'engagement dans l'œuvre de Dieu, dans le but d'achever, va éprouver notre bonne volonté. Elle va en mesurer la consistance, elle va en mesurer la réalité. Et si nous sommes fidèles à tenir bon quant à ce que Dieu nous a communiqué, cette bonne volonté va devenir une détermination d'achever, d'atteindre le but que Dieu nous place devant nous. Cette détermination va se forger. Elle se forge dans le temps qui passe. Elle se forge au-delà de nos insuffisances. Elle se forge au-delà de tous nos manques de moyens. Elle se forge au-delà de toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Elle se forge au-delà de nos propres limites. Et en France, qui veut faire l'œuvre de Dieu va devoir avoir une détermination affermie. Parce que très vite, nous faisons face aux limites. Cette détermination, pour qu'elle demeure, doit rester attachée à Dieu. Elle doit donc rester aussi attachée au but. Il dit de Moïse qu'il a quitté l'Égypte parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la récompense. Il avait les yeux fixés sur le but. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui nous permet d'aller au-delà de toutes les épreuves, sinon que la vision du but à atteindre ? Mais si nous perdons de vue ce but, alors comme Pierre, nous ne regardons qu'à la tempête. Nous avons perdu de vue Jésus et nous nous enfonçons. Mais constamment, nous devons rester attachés à la ligne d'arrivée. Cette détermination va se nourrir. Elle va se nourrir dans la prière. Elle va se nourrir de la présence de Dieu. Cette détermination va se nourrir aussi de tous les petits pas que nous accomplissons au fur et à mesure. C'est ainsi que la foi se bâtit. Elle se bâtit de petits pas. Elle se bâtit de petits progrès. Mais les petits progrès font ensuite de grandes réalisations par la grâce de notre Seigneur. En vue d'achever, nous avons dit qu'il nous faut un but, il nous faut un empressement, il nous faut une détermination, mais il nous faut aussi une action. Il nous faut une action. Encore une fois, nous ne pouvons pas nous contenter de désirer, d'espérer, mais il nous faut nous engager si nous voulons atteindre le but. Paul nous laisse entendre que qui veut achever d'agir doit agir pour achever. Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il faut savoir ce qui est prioritaire. Est-ce le but ou est-ce la façon de faire ? Est-ce même le fait de faire qui est suffisant en soi et qui nous dispense d'un but ? Et je vais être très direct encore une fois, dans beaucoup d'assemblées, malheureusement, ce qui est important, c'est le fait de faire comme on a toujours fait. Et du moment que vous faites comme on a fait, peu importe qu'il y ait des résultats ou qu'il n'y ait pas de résultats, qu'il y ait un but ou qu'il n'y ait pas de but, du moment que vous avez fait comme on a fait, tout est bon. Mais ça, ce n'est pas le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est nous dire, premièrement, vous devez avoir un but. Et ensuite, vous travaillez, vous agissez pour atteindre ce but. Ce n'est pas la façon de faire qui doit produire un but, mais c'est le but qui doit déterminer l'action. Et évidemment qu'on a un but à atteindre. Quand on veut atteindre ce but, alors toutes nos actions vont être calculées, définies, planifiées en fonction de ce but. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous n'allons pas tout entreprendre. Quelqu'un me disait il y a quelques jours, dans cette ville de Paris, on pourrait passer notre temps à répondre aux besoins. Mais ça, ce n'est pas notre mission. Dieu ne nous demande pas de répondre à tous les besoins. Il nous demande d'aller dans la direction qu'il nous a fixée. Et il faut savoir travailler dans un sens. Et tout alors devient comme motivé, conditionné par ce but à atteindre, que ce soit dans la prédication, dans la louange, dans l'esprit de l'Église, dans la culture de l'Église, dans la façon de travailler ensemble. Nous sommes motivés par le but à atteindre. Paul lui-même est très, très soucieux d'atteindre les objectifs que le Seigneur lui fixait. Dans 1 Corinthiens 9, 24, 26, il fait une allusion au sport. Il écrit « Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent, tous, oui, ils courent, mais qu'un seul remporte le prix ?» Et après, il a cette déclaration « L'essentiel, c'est de participer. » Ça, c'est la version française. Depuis Monsieur de Coubertin. Mais ce n'est pas la version de Paul, non ? Que nous dit Paul ? Courez de manière à remporter la victoire. Alors pour nous Français, généralement, on se protège. L'essentiel, c'est de participer. Mais depuis vendredi soir, au football et depuis hier matin au rugby, on a oublié l'esprit de Coubertin. Et maintenant, il n'y a plus qu'une chose qui nous motive. Quelle est-ce ? Gagner. Gagner. Et la vision de Paul, c'était une vision de victoire. Paul ne participait pas simplement pour le fait d'avoir participé. Il voulait remporter la course. Alors il dit aussi, moi donc je cours, mais non pas comme à l'aventure. Je frappe, mais non pas comme battant l'air. Tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, c'est dans le but de remporter la victoire, d'achever, d'atteindre le projet que Dieu a placé devant moi. C'est ça l'esprit de l'Évangile. C'est aussi l'esprit de la foi, qui n'est pas simplement l'espérance de choses que nous voudrions, mais bien la démonstration. Mes frères et sœurs, il est temps qu'en France, nous espérions un peu moins et commençons à démontrer un peu plus. Que notre foi soit une foi démontrée. Ensemble, nous voulons donc agir pour achever. Ensemble, nous avons défini des priorités. Et oui, nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins. Et oui, nous avons un but qui nous motive. Et oui, je le dis, nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde. Parce qu'il nous faut atteindre ce but. Et parce que nous ne changerons pas de cap parce que je crois de tout mon cœur que le but que nous poursuivons, bâtir le camp de l'Éternel, n'est pas une idée d'un homme, mais c'est vraiment le projet de Dieu pour notre assemblée. Agir pour achever nécessite un but, requiert aussi un empressement, que notre empressement reste aussi fort qu'au premier jour. Exige aussi une détermination, Seigneur, nous irons jusqu'au bout pour ta gloire. Et demande aussi un désir d'action. Nous avons commencé d'agir, Seigneur, et nous irons jusqu'au bout, nous accomplirons ton plan. Que le Seigneur puisse toujours nous renouveler dans cette vision. Amen. Après avoir parlé ainsi sur cette idée biblique de l'achèvement, je voudrais aussi vous parler de notre assemblée et donc replacer ces enseignements d'une manière pratique dans la vision de l'Église. Et je reviens alors à 4 ans et demi en arrière. Quelques heures, peut-être quelques jours, mais je n'ai plus l'idée, mais c'était vraiment très proche, quelques temps après que M. Boulagnon m'ait appelé pour venir lui succéder ici dans cette assemblée. Dieu a simplement déposé une parole dans mon cœur, un mot. Et pour moi, cette parole, c'est une semence prophétique. Et ce mot du Seigneur n'a jamais cessé de résonner en moi. Au début, je ne connaissais même pas l'Église. Mais le Seigneur m'a dit, cette Église s'appellera Paris-Bastille. Et depuis le premier jour, ça a été gravé dans mon cœur. Et pour moi, ce n'est pas simplement un changement de nom. C'est une mission. Ce projet est devenu, a pris de l'épaisseur avec le temps. Et dans cette vision de l'Église Paris-Bastille, la conviction que cette Église doit être une Église dans Paris et pour les Parisiens. Une Église qui soit capable d'atteindre sa génération. Une Église qui soit capable de pénétrer là où on ne peut pas pénétrer. Et je vous le dirai, c'est très fort sur mon cœur. Le véritable enjeu à Paris, je ne veux choquer personne, mais c'est vraiment ma conviction. Le véritable enjeu d'évangélisation à Paris, ce n'est pas d'aller sur la place publique. Le véritable enjeu de l'évangélisation de Paris, c'est de pousser les lourdes portes. Les lourdes portes des ministères, les lourdes portes du Parlement, les lourdes portes des institutions bancaires, les lourdes portes des grandes sociétés de la défense, les lourdes portes cochères des immeubles qui sont au centre de Paris. Là est le défi. Le défi de Paris n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et ce défi, ce n'est pas avec des pasteurs, ce n'est pas avec des prophètes, ce n'est pas avec des apôtres qu'il sera accompli, c'est avec vous. Savez-vous pourquoi ? Parce que ce n'est pas nous qui allons derrière ces portes, c'est vous qui allez. C'est vous qui avez les codes. C'est vous qui pouvez me prendre l'ascenseur et monter dans les tours et aller rencontrer ces hommes qui sont là et qui décident pour la nation. Le défi de l'évangélisation de Paris, il est là, plus que dans les rues. Et pour atteindre cet objectif, cette église de Paris-Bastille, il fallait donc passer par cette vision de bâtir le camp de l'Éternel. D'où vient cette expression ? Nous la trouvons dans 1 Chronique 12. Au début, David est seul, presque isolé, dans sa fuite devant Saül. Il est faible. Et à plusieurs reprises dans ce chapitre, il est dit que Dieu l'a secouru. Et comment l'a-t-il secouru ? En envoyant des hommes, des guerriers, des leaders, des chefs qui sont venus de tout Israël. Et ils sont venus par dizaines, par centaines et par milliers. Et le texte conclut en disant qu'ils ont formé un camp comme celui de l'Éternel. Autrement dit, un camp comme celui de l'armée des anges. Un camp de grâce, un camp de puissance. Mais la finalité n'était pas le camp. Mais Dieu a préparé ce camp parce qu'il avait un grand projet. Et le grand projet, c'était Jérusalem. Ce grand projet, c'était un royaume selon le cœur de Dieu en Israël. Mais il fallait passer par ce camp de l'Éternel. Et je dis que nous avons travaillé à bâtir le camp de l'Éternel ici dans cette assemblée, dans le but de devenir une église dans la ville. Et nous avons travaillé selon des principes que je veux revoir avec vous. Premièrement, nous sommes restés attachés à nos fondements. Nous n'avons pas dévié de la doctrine, oui. Mais le plus important, laissez-moi vous dire, oh, c'est vrai que nous avons pu évoluer dans la forme de la louange, dans bien des choses, mais il y a quelque chose qui reste inébranlable. C'est la prédication de la parole. La prédication de la parole est le ministère du Saint-Esprit. Et sur ça, nous n'avons jamais dérogé, nous n'avons jamais failli par la grâce du Seigneur. Et nous avons voulu être aussi une église qui rassemble des forces, une église qui s'ouvre. Alors, nous avons bâti le camp de l'Éternel. Et je vais dire, Dieu a bâti le camp de l'Éternel parce que c'est Dieu qui avait envoyé des guerriers auprès de David. Et moi, je dis que dans cette église, nous avons trouvé des ressources extraordinaires. Mais Dieu a aussi ajouté des ressources et des talents et des dons merveilleux à cette église à travers les hommes et les femmes qu'il a envoyés dans cette assemblée. Et nous avons pris soin, et nous voulons le faire encore, de les former pour leur permettre de servir dans l'église, mais aussi dans le monde. Et Bastille est maintenant une église avec une vision. Et Bastille est devenu un camp de l'Éternel. Et si je parle d'achèvement aujourd'hui, c'est par rapport à ce projet. Nous sommes dans l'année de l'achèvement. Je ne dis pas que les choses sont achevées. Il y a des choses à achever. Et j'en parle avec foi parce que je suis convaincu que Dieu nous permettra d'achever. D'ailleurs, je peux vous dire que pour moi, ce mot, cette parole de Dieu, achever, c'est comme un aiguillon. C'est comme un aiguillon que j'ai dans le dos et qui me pique et qui me pousse à aller en avant, qui me dit, c'est pas le temps que tu t'arrêtes, c'est pas le temps que tu te reposes. C'est le temps maintenant que tu finisses d'achever. Je dis, Seigneur, mais il y a des... Fou, ça en fait de plus en plus, il y a des défis de plus en plus grands, notamment des défis financiers. Dieu me pousse par cette parole. Et pour moi, c'est véritablement un défi. Et j'espère le partager avec vous. Oui, il y a des choses encore à finir. Oh. Nos locaux. Il y a des choses impératives, le toit. Là, ça ne se voit pas, mais enfin, il y a le faux plafond. Mais à vue d'œil, ce local a maintenant besoin d'être rénové et en plus mis aux normes. Ça va coûter de l'argent, c'est aussi beaucoup de soucis techniques, etc. Vous vous en doutez bien, mais nous voulons le faire pour la gloire du Seigneur. Parce qu'il est important que la maison du Seigneur soit accueillante, qu'elle soit digne de notre roi. Et je sais que je pourrai compter, nous pourrons compter ensemble parce que c'est notre désir, c'est notre générosité pour que cette maison puisse ensuite vraiment être une maison accueillante pour le Seigneur. Ce que je désire aussi, c'est encourager d'autres à se lever pour le service de Dieu. Merci Seigneur, parce que plus de 150 personnes aujourd'hui servent dans l'Église. C'est bien, jeunes et moins jeunes. Seulement pour tous ceux qui servent ont toujours cette prière qu'il y en ait d'autres qui se lèvent, parce que ça permettrait de répartir un peu mieux la charge. Parce qu'il arrive souvent que ceux qui servent doivent servir dans leur service, mais aussi dans un autre service. Ça, c'est tellement bien si un frère, une sœur se levait pour alléger et nous aider à bâtir le camp de l'Éternel. Parce que, mes frères et sœurs, si vous nous rejoignez, oui, nous le disons, c'est pour, avec nous, bâtir le camp. Je le dis et je le dirai de plus en plus fort. Non, nous ne voulons pas d'une église de gens qui viennent simplement le dimanche matin ou comme ça. Nous voulons de plus en plus une église de disciples, une église de gens qui s'engagent, une église de gens qui sont prêts à servir, non pas simplement l'Assemblée, mais le royaume de Dieu. Mais je veux en parler aussi avec Action de Grâce, mes frères et sœurs, parce que ça, en France, nous ne savons pas le faire. Nous savons toujours regarder à ce qui ne va pas. C'est notre spécialité. Et on oublie de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui s'est fait. Et ce matin, je veux rendre grâce à Dieu. Je me réjouis dans le nom du Seigneur, véritablement, de voir qu'en l'espace de 4 ans, les auditoires du dimanche ont quasiment doublé. Nous étions à peu près ça lorsque nous sommes arrivés. Et n'oubliez pas qu'il y a un culte avant qui remplit la moitié de l'église et qu'il y a un culte l'après-midi qui remplit une autre moitié de l'église. Je rends grâce au Seigneur de ce que les offrandes en l'espace de 4 ans ont été multipliées par 2,5 et même plus maintenant. Mais ça, c'est chacun d'entre nous dans cet engagement pour l'église. Je rends grâce à Dieu de ce qu'une équipe pastorale s'est constituée et de ce que surtout nous pouvons soutenir financièrement cette équipe pastorale qui, au-delà de notre ministère avec Esther, s'est étendue à Benjamin, Marion qui s'est étendue maintenant à Didier et Isabelle. Et nous voyons tout ce qu'ils vont pouvoir apporter à l'église en termes de pastoral, de présence. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour la présence de Monsieur Boulagnon qui est avec nous comme un père pour chacun d'entre nous. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'une équipe diaconale solide se lève. Des anciens mais des diacres. Des frères, des sœurs, jeunes et moins jeunes, qui ont à cœur le royaume de Dieu et qui veulent servir efficacement la cause du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la mise en place de ministères efficaces dans de nombreux domaines. Je me réjouis dans le nom du Seigneur pour le travail qui a été fait parmi les jeunes adultes. Et aujourd'hui, nous avons un groupe de jeunesse, de jeunes adultes, de près d'une centaine de jeunes. Et gloire à Dieu, c'est merveilleux. Cette semaine, j'étais à Bordeaux, il y avait un pasteur de l'Est, je ne sais pas si c'était d'Ukraine ou d'ailleurs, je me semble que c'était d'Ukraine. Et il fait une grande tournée en Europe de l'Ouest et il disait à l'église de Bordeaux qu'il se réjouissait de visiter les églises de France, il est dans le Sud-Ouest, parce qu'il y avait une grande différence entre ce qu'il voyait en France et en Scandinavie, en Suède, en Norvège, là où il était. Il nous a dit, il n'y a plus que des personnes âgées. Il n'y a plus de relève. Béni soit Dieu pour nos frères et sœurs qui ont persévéré, mais leur cœur doit être brisé de ce qu'il n'y a plus de jeunesse. Alors la jeunesse parfois nous bouscule, mais elle réjouit le cœur, parce que l'Église est vivante dans notre pays. Je bénis le Seigneur pour le travail qui se fait parmi les enfants, nous avons de plus en plus d'enfants là-haut, je les vois. Je bénis le Seigneur pour le travail de formation, je bénis le Seigneur et mes frères et sœurs, pensez à prier pour ceux du conseil d'administration. Nos frères font un travail extraordinaire parce que les exigences de l'État sont de plus en plus fortes, que ce soit dans le domaine juridique, dans le domaine comptable, sont les mêmes exigences que pour des entreprises. Et ils font ce travail. Et ils le font bien parce qu'ils ont à cœur l'œuvre du Seigneur. Je bénis Dieu pour le travail dans les médias. J'étais encore à Bordeaux et plusieurs frères et sœurs me disaient on suit l'évolution de votre église. Et des choses comme le site internet a influencé de nombreuses assemblées. La vidéo que nous avons lancée a influence dans les messages, mais donne aussi à d'autres églises l'envie de se lancer dans ces ministères. Et Bassy est devenue une église qui influence d'autres assemblées à son tour. Et je crois que c'est important parce que ici à Paris, nous pouvons rayonner sur toute la France. Je bénis le Seigneur pour tout le travail qui se fait avec M. Boulagnon et les frères et sœurs du département des visiteurs pour Christ. Béni soit Dieu. Ils prennent soin de nos personnes âgées, ils prennent soin de nos malades. Ce sont les frères et sœurs qui le font vis-à-vis des autres frères et sœurs, et ça, c'est précieux. Et je me réjouis par avance pour tout ce que Didier et Isabelle vont pouvoir entreprendre. Isabelle, dans le social, on est en train, c'est vrai, c'est un peu difficile parce qu'il y a des choix très importants à faire dans le domaine juridique. Mais je sais que ça va aboutir, on ne perd jamais notre temps, on avance, mais Dieu va bénir. Je bénis aussi le Seigneur pour le ministère de Didier et Isabelle dans le domaine pastoral, parce que je sais qu'ils vont travailler de tout leur cœur. Si ce matin, comme je le disais hier, si ce matin, oui, je trace une direction, oui, je vais de l'avant, oui, je jette des rails pour l'avenir, je sais qu'eux sont là avec cette vision de consolider. Parce que les mailles de l'Église doivent se resserrer et nous avons besoin les uns des autres, et ce qu'ils vont faire va être un ministère en bénédiction dans les années à venir, j'en suis convaincu. Mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous achèverons de bâtir et nous achèverons de bâtir avec succès le camp de l'Éternel. Je le dis, c'est une parole de Dieu pour l'Église, et je prie pour que cette année, cette parole soit une parole prophétique pour votre vie, et que vous aussi, mes frères et sœurs, vous puissiez sentir dans votre dos l'aiguillon de cette parole qui vous pousse à aller en avant et à dire, Seigneur, nous voulons achever afin que tu puisses nous amener plus loin. Gloire à Dieu. J'ai parlé avec mon cœur, mais je me réjouis dans le Seigneur. Je le dis avec vérité, je me réjouis d'être avec vous. Chaque fois que je viens dans la maison du Seigneur, je peux le dire, je suis dans la joie. Il y a parfois, bien sûr, des difficultés, parfois des épreuves, mais je suis dans la joie. Avec mon épouse, nous sommes dans la joie. Avec nos frères et sœurs de l'équipe pastorale, nous sommes dans la joie. Parce que Dieu est au milieu de nous. Gloire à Dieu. Seigneur, tu nous as établis les uns les autres dans cette ville, pour cette ville. Seigneur, la beauté de cette ville, ce ne sont pas les monuments. Parce que Seigneur, quel que soit le monument, au jour de l'embrasement, ils seront consumés. Mais Seigneur, l'important dans cette ville, ce sont ces hommes, ces femmes. Quelle que soit leur origine ethnique, religieuse, quel que soit leur niveau social, Seigneur, tu aimes tous les Parisiens. Et notre conviction, notre prière, Seigneur, c'est que tu ne reviennes pas sur cette terre avant d'avoir accordé un jour de repentance à Paris. Seigneur, que tu puisses un jour visiter cette ville de Paris. Et mon Dieu, je sais que tu travailles dans les assemblées, qu'elles soient en banlieue, qu'elles soient sur Paris. Tu travailles avec tes assemblées, avec tes églises, et à chacune, tu veux leur fixer un objectif, Seigneur. Nous avons notre course, nous avons un but à atteindre, et nos frères dans les autres assemblées ont un autre but à atteindre. Nous ne pourrons pas tous atteindre tous les mêmes buts, mais chacun, nous avons un but. Et Seigneur, pour nous, nous voulons bâtir ce camp de l'Éternel. Je prie pour une église forte, une église d'engagement. Une église avec un désir de conquête. Une église qui se dit, Seigneur, bientôt nous passerons plus de temps à nous occuper du dehors que de l'intérieur. Seigneur, merci de marquer nos cœurs par cette parole achevée. Achevée pour enfin être prêt à aller plus loin. Seigneur, que tu puisses nous garder dans une ferme détermination. Que tu puisses garder notre empressement intact et que tu puisses, Seigneur mon Dieu, nous motiver pour une action et un but. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. C'est ensemble que nous le ferons. Je te remercie, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs. Et Seigneur, je te prie pour que cette année, ta grâce soit sur eux, renouvelant chacun dans sa joie, renouvelant chacun dans sa foi, et permettant à chacun d'entre nous de faire un pas supplémentaire pour ton œuvre. Je te prie pour tous mes frères et sœurs et leur service dans l'Église. Je ne peux pas énumérer, Seigneur, tous les ministères, mais tu les connais les uns les autres, tu connais leurs défis, leurs combats, tu connais les buts qu'ils se sont fixés. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de les renouveler ce matin. Je te prie pour tous les frères et sœurs qui, au milieu de nous, n'ont pas encore trouvé une place dans le service de l'Église. Mais Seigneur, il y a une place pour tous. Et quel que soit l'âge, quel que soit le niveau d'études, quel que soit, Seigneur, l'origine sociale, la couleur de peau, il y a une place pour tous, Seigneur, dans cette assemblée. Seigneur, puisses-tu parler à nos cœurs. Seigneur, merci pour cette parole. Oui, je veux achever. Dans le nom de Jésus. Amen.